Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 5 mars 2024. Nous sommes rendus à l'épisode 204 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler principalement de trois choses. Premièrement, je vais vous partager rapidement ma prévision pour la décision de la Banque du Canada concernant le taux directeur. Donc, l'annonce officielle va se faire demain. Donc, mercredi, je veux juste donner mon opinion là-dessus avant que ce soit officiel. Ensuite, j'ai pas le choix de vous parler de la remontée du prix du Bitcoin. Il y a eu vraiment une remontée en flèche du côté de la crypto. Et finalement, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aussi vous parler des risques d'avoir des liquidités importantes, d'avoir beaucoup d'argent dans le fond, dans vos comptes de banque ou dans vos comptes de placement. Au fait, je vais vous conter une petite mésaventure qui m'est arrivée récemment et c'est en lien avec la cybersécurité. Donc, je veux couvrir tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par la Banque du Canada qui va annoncer demain sa décision pour son taux directeur. Le consensus actuel des analystes, c'est que la Banque centrale va maintenir son taux directeur à 5%. Et c'est également ce que je pense de mon côté. On n'est vraiment pas rendu à l'étape de parler de baisse de taux d'intérêt, même si le taux d'inflation annuel au Canada il a diminué à 2,9% en janvier. On se retrouve un peu dans la braquette de la Banque du Canada entre 1 et 3%. Mais on s'entend que la Banque du Canada veut beaucoup plus se diriger vers un taux d'inflation annuel autour de 2%. Et malgré le fait qu'il y a déjà certains signes de faiblesse du côté de l'économie canadienne, pour le moment, ce serait trop précipité de commencer à baisser le taux directeur. On n'est pas rendu là. D'après moi, on va voir ça peut-être plus en fin d'année 2024, au troisième ou d'après moi plus au quatrième trimestre de cette année. D'ailleurs, encore une fois, je veux attirer votre attention sur le baril de pétrole brut. Le prix du baril de WTI, il dépasse maintenant 78 US. Donc, on se dirige tranquillement vers 80 US. Et du côté technique, le pétrole semble être sur un momentum haussier. Et je vous rappelle que la baisse du prix de l'essence, c'était un des éléments qui a contribué le plus à la diminution de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Donc, si on se retrouve avec un baril de pétrole qui est de plus en plus cher, nécessairement, ça va avoir un impact sur le prix de l'essence à la pompe et conséquemment, bien, ça va se refléter sur les prochaines données de l'IPC. Autrement dit, le pétrole brut pourrait potentiellement causer une résurgence de l'inflation et clairement, ben, ça pourrait freiner l'envie de la Banque du Canada de descendre les taux d'intérêt. Bref, le secteur de l'énergie au Canada, c'est un secteur qui est à surveiller. Tu sais, comme je l'ai déjà dit quand j'ai acheté des actions de Suncor en juin de l'année passée, ben, je considère que le secteur de l'énergie, c'est un secteur d'activité qui est négligé par les investisseurs et qui est potentiellement sous-évalué par le marché. Un peu moins présentement, là, si je regarde le prix des actions dans ce secteur-là, mais quand je l'ai acheté l'été passé, en juin-juillet 2023, à ce moment-là, vraiment, on était comme dans un creux du côté de ce secteur-là. Sinon, si on va du côté de la crypto, comme je vous dis, j'ai pas le choix d'aborder la récente remontée du Bitcoin. Justement, le Bitcoin aujourd'hui même qui vient d'atteindre un nouveau all-time high, donc un nouveau sommet. Au fait, c'est juste pour vous montrer que ça m'arrive de me tromper. Quand le prix du Bitcoin est passé en dessous de 40 000 $ US, ça c'était à la fin du mois de janvier 2024, mais j'avais callé que je m'attendais que le Bitcoin continue sa chute jusqu'autour de 36 000 $. Et là, dans la vie, tu ne peux pas te tromper bien plus que ça parce que finalement, le Bitcoin est reparti à la hausse. Il a remonté depuis ce temps-là. Et là, aujourd'hui, il est rendu à plus de 68 000 $ US. donc un nouveau all-time high. T'sais, la dernière fois qu'elle était autour de ce niveau-là, c'est là quasiment 3 ans, quand il avait atteint son dernier peak en novembre 2021. Donc, vous pouvez voir que je me suis grandement trompé. Et je vous dirais que mon erreur a été de penser que la majorité du monde avait déjà acheté leur Bitcoin et que l'arrivée des FNB, des ETF Spot Bitcoin aux États-Unis, ça n'allait pas changer grand-chose. Finalement, avec l'arrivée de ces FNB-là, il y a eu énormément de volume de transactions pour acheter du Bitcoin, tellement que la plateforme Coinbase a eu des difficultés techniques à deux reprises. Donc, en fait, il y avait des utilisateurs qui voyaient leur compte à 0$, un peu paniquant. Mais tout ça pour dire que, malgré tout ça, j'arrive toujours pas à comprendre l'engouement avec le Bitcoin. C'est peut-être avec le halving qui s'en vient prochainement. Je vous rappelle que le halving, c'est quelque chose qui était déjà prévu dans la programmation du Bitcoin. Et en fait, ça va rendre le minage de Bitcoin plus difficile. Les récompenses aux mineurs vont être diminuées. Donc, théoriquement, il va y avoir moins de Bitcoin minés. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir théoriquement moins de Bitcoin disponibles. Et je pense que les investisseurs dans le marché de la crypto, les investisseurs sont convaincus qu'il va y avoir un certain débalancement de l'offre et de la demande. Et d'après moi, c'est un peu ça qui pousse actuellement le prix du Bitcoin vers le haut. Et là, on peut se demander jusqu'à où ça peut se rendre. Personnellement, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, est-ce que ça me donne plus le goût d'en acheter? Non plus. Tu sais, ma raison est bien simple. Quand j'achète des actions de par exemple, Microsoft, puis que là, le prix drop de 10, 15, 20%, je peux regarder les actifs de l'entreprise, voir le cash flow que la compagnie génère, les dividendes qu'elle verse, etc. Il y a quelque chose derrière l'action. Et tu sais, comme je vous dis, je détiens des parts d'une entreprise et je suis toujours capable d'évaluer une certaine valeur à l'action. À l'inverse, si j'avais du Bitcoin puis que le prix se met à chuter de 20% un matin, ben je commencerais à stresser parce que je serais pas en mesure de définir une valeur intrinsèque à un Bitcoin. Conserver mon investissement basé sur de l'espoir et du wishful thinking, c'est quelque chose que je ne serais pas capable de dealer avec. Puis tu sais, là, je tiens à préciser que je dénigre pas ceux qui croient en la crypto-monnaie, qui croient au Bitcoin. C'est simplement que, de mon côté, j'arrive pas à investir mon argent dans un actif qui est 100% numérique et dont il est impossible de calculer une valeur intrinsèque. Dans le sens que quelque part dans le temps, ça peut valoir quelque chose si c'est adopté à grande échelle ou on peut s'en servir un peu comme un actif de valeur refuge, un peu comme l'or, mais sous format digital, numérique. Encore là, il y a aussi la question des montants que tu investis. Dans le sens que mettre 4-5 000 là-dedans, ça peut être drôle si jamais ça explose de x2, x5, x10... Mais investir des centaines de milliers de dollars dans ça, dans le but de me bâtir un patrimoine, je suis pas à l'aise, là. En fait, je suis juste pas assez convaincu pour prendre ce risque-là. Tout ça pour dire que l'objectif du podcast, comme je le répète tout le temps, c'est pas de vous donner des conseils d'investissement ou de vous dire quoi acheter ou quoi vendre. Je vous partage mes observations. Des fois, ça se passe comme j'anticipe. Puis d'autres fois, non. Comme on a pu le voir avec le Bitcoin qui a littéralement fait l'inverse puis qui a explosé à la hausse. L'important, c'est que de mon côté, sur le long terme, j'ai raison plus souvent que je me trompe. Puis tu sais, à date, je m'en sors bien avec mon portefeuille d'actions. Et c'est pour ça que je me concentre uniquement sur l'investissement en bourse. Tu sais, c'est le domaine que je maîtrise le plus. À l'inverse, je ne vais pas me lancer dans l'immobilier ni dans la crypto. J'en connais pas assez là-dedans. Faut que je sente que je comprenne bien dans quoi je m'embarque pour investir mon cash dans quelque chose. Et je vais conclure là-dessus par rapport au Bitcoin. Et pour finir l'épisode, le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude au Canada. J'ai vu ça récemment et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a donné l'idée de vous parler des risques qui viennent avec le fait d'avoir pas mal d'argent, que ce soit dans vos comptes de banque ou dans vos comptes de courtage en ligne. Au fait, quand t'as pas vraiment d'argent de côté, que t'as pas de fonds d'urgence, que t'as pas ou peu d'épargne ou de placement, dans ce cas-là, il y a de bonnes chances que tu sois inquiet par rapport à tes finances personnelles, que tu sois stressé pour réussir à faire tous tes paiements. Mais au final, quand tu manques d'argent, t'as pas peur de te faire vider ton compte de banque ou de te faire pirater ou de te faire frauder. Et mon point par rapport à ça, c'est que pour les ménages à faible revenu, leur stress financier, c'est principalement lié au manque d'argent du côté d'une insuffisance, tandis que pour ceux qui en ont accumulé pas mal au fil du temps, c'est complètement autre chose qui peuvent les inquiéter. Et je vous parle de ça parce que dans ma vie, j'ai passé d'une réalité à l'autre, c'est-à-dire que au début de la vingtaine, j'avais peur de manquer d'argent, j'étais au début de ma vie financière, je venais de sortir de l'université, j'étais sur le point de démarrer ma première business, donc j'avais pas d'argent ou très peu d'argent de côté, tandis que maintenant, je suis un peu rendu à un autre niveau financièrement, et là, je cherche constamment le meilleur moyen de protéger mon cash, que ce soit contre le vol, la fraude ou n'importe quelle autre affaire, en fait, qui pourrait toucher mes liquidités et mes placements. Fait que c'est un peu sous cet angle-là que je veux pousser parce que quand tu commences dans la vie, dans la majorité des cas, ta valeur nette est nulle ou même négative si t'as des dettes étudiantes, mettons. Donc, théoriquement, quand tu débutes, t'as rien à perdre et ça fait en sorte que on est prêt à prendre plus de risques. Puis au pire, on va recommencer à zéro parce que de toute façon, on n'a rien à se faire saisir. Puis tu sais, on se dit qu'on a le temps de se refaire. Mais de mon bord, une fois que j'ai atteint un certain niveau financier, tout d'un coup, tu sais, je cherche à faire des moves qui sont plus stratégiques. Je cherche à mitiger mes prises de risques. Et je sais pas si c'est seulement une question d'argent, de valeur nette, ou c'est l'âge qui fait ça, mais j'aurais beaucoup de difficultés à repartir de zéro après tous les sacrifices que j'ai faits pendant les 10 dernières années. Et la première chose à comprendre quand je vous dis ça, c'est que la majorité de ma valeur nette, la totalité de l'argent que j'ai travaillé durant toute ma vie, c'est seulement des chiffres sur un écran. Dans le sens que moi, j'ai pas d'actifs immobiliers, je suis pas un propriétaire de bâtiments, que ce soit ma maison personnelle ou un multilogement, duplex, triplex et compagnie. J'ai pas un char à 300-400 000. Tu sais, tout ce que j'ai, en grosse partie, c'est directement dans le système bancaire, soit sous forme liquide, là, en cash dans des comptes de banque ou investi dans des comptes de courtage en ligne, dans des comptes autogérés. Et ce point-là est super important parce que dernièrement, je me suis fait hacker mon courriel personnel sur Hotmail. Et là, je sais pas comment le gars il a fait, mais il a trouvé le mot de passe de mon courriel. Il s'est connecté, il a changé le mot de passe et il a changé également l'adresse courriel de backup là, que tu peux envoyer un code pour après ça faire initialiser ton mot de passe. Donc, en ayant changé le mot de passe puis l'adresse de backup, je pouvais plus me connecter sur mon Hotmail. Puis tu sais, sur le coup, tu te dis, tu sais, c'est pas si pire que ça. Je veux dire, je m'en sers pratiquement pas de ce courriel-là. Sauf que l'affaire, c'est que mon adresse courriel Hotmail, c'est le courriel que j'utilise sur toutes mes autres applications. Et là, je suis pas niaiseux non plus. Mon mot de passe de courriel, c'est pas le même que toutes les autres. Au fait, mon password il est différent sur toutes les applications ou sur tous les sites que je me connecte. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vu que lui, il est connecté à mon Hotmail, après ça, il peut aller, mettons, sur Amazon et là, il va faire réinitialiser le mot de passe. ça envoie un courriel à l'adresse Hotmail que je n'ai plus accès. Et là, il change le mot de passe sur Amazon. Donc là, il gagne accès à mon compte Amazon avec mes cartes de crédit qui sont déjà rentrées. Il peut faire la même chose avec Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, etc. Dans le fond, avec l'adresse Hotmail, il peut rentrer sur chacune des autres applications en faisant réinitialiser le mot de passe parce que le mot de passe ou le code de validation est envoyé sur le Hotmail que je n'ai plus accès. Et l'autre chose, c'est que sur mon Hotmail, il y a accès aussi à mon compte Microsoft parce que Microsoft, Outlook, Hotmail, c'est tout rendu sur la même affaire, sur le même profil. Et sur mon compte Microsoft, il y a mon compte PayPal qui est déjà linké. Et là, va savoir pourquoi, le gars, il a acheté une douzaine de Microsoft Windows 11 Pro à genre 260$ plus taxes chacune. Et ça, dans le fond, il pouvait faire directement l'achat via le PayPal qui était déjà connecté. Et là, quand j'ai vu ça, moi, j'ai réussi à annuler 2-3 commandes, mais toutes les autres étaient déjà approuvées, ils étaient déjà passées. Et là, je ne vous raconterai pas toute l'histoire qui a suivi, c'est la perte de temps et le stress que ça a causé. Mais le punch de l'histoire, c'est que j'ai réussi à récupérer finalement mon courriel Hotmail. J'ai récupéré l'accès aux autres applications. Microsoft, il m'a tout remboursé. Toutes mes cartes débit, crédit ont été changées. Mes mots de passe aussi. Et finalement, ma solution majeure pour tout régler ça, en fait, ça a été de télécharger une application d'authentification à deux facteurs. En gros, si quelqu'un essaie de se connecter sur mon courriel ou n'importe où ailleurs, au fait, même si par miracle, il y a le bon mot de passe, ça va lui demander un code de validation. Et ce code-là, à 6 chiffres, il est seulement disponible sur mon cell, sur l'application d'authentification. Le code à 6 chiffres, il change aux 30 secondes. Fait que ça fait en sorte que ça rajoute vraiment une bonne barrière de sécurité. Et d'ailleurs, sans farce, je recommande à tout le monde d'utiliser ce type d'application-là. Vite de même, il y a Google Authenticator et Microsoft Authenticator. C'est les deux applications que je connais. Honnêtement, je pense qu'à Star, c'est rendu un must d'avoir ce type d'application-là. Au fait, je pense que j'étais un peu en retard de ce côté-là. Mais tu sais, si je peux vous éviter une mésaventure similaire, je vous suggère fortement d'activer ce type de validation à deux facteurs, que ce soit sur votre courriel ou toutes vos autres applications. Et tout ça pour dire que l'accès à mon compte de courtage ou que la majorité de mon argent est investi, cet accès-là était quand même relativement à portée de main pour le hacker, dans le sens que ça aurait été possible de se connecter via l'adresse courriel, qui est encore une fois la même adresse courriel, de faire réinitialiser le mot de passe, de recevoir le code de validation, etc., directement avec l'adresse courriel principale. Donc clairement, ça m'a amené à me questionner sur la sécurité de mon argent dans mes comptes bancaires et dans mes comptes de courtage. Évidemment, de mon côté, comme je vous dis, j'ai activé les authentifications à double facteur sur l'application de ma banque, sur l'application pour mon courtage en ligne. Puis, tu sais, j'ai aussi activé des alertes pour les sorties de fonds pour mon compte chèque, puis aussi pour mes cartes de crédit. Comme ça, s'il se passe de quoi, je peux être vite sur le piton puis au moins bloquer les cartes de crédit, contacter ma banque ou tu sais, je peux faire de quoi rapidement. Puis tu sais, l'autre chose que j'ai faite, c'est que les numéros de mes cartes de débit pour accéder à mes comptes de banque sont enregistrés nulle part. Avant, ils étaient déjà pré-enregistrés sur mon téléphone, ils étaient pré-enregistrés sur mon ordinateur quand je me connectais pour éviter à chaque fois de le réécrire. Même principe pour mes mots de passe. T'sais, mes mots de passe ils étaient retenus par mon browser, là, par Google, donc j'avais pas besoin à chaque fois de rentrer mon numéro de carte, de rentrer mon mot de passe. Et ça faisait en sorte que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple de cette manière-là. Parce qu'à cette heure, comme je vous dis, il faut tout que je rentre manuellement à chaque fois. Mais ça fait en sorte de rajouter un coefficient de difficulté si jamais je me fais voler de l'information, je me fais pirater, je me fais voler mon téléphone, mon ordinateur, quoi que ce soit. Tu sais, ça rend la tâche pas mal plus compliquée. Donc, je me dis que le hacker pourrait en fait décider d'abandonner un projet compliqué de même, puis de sauter sur un cas qui est plus facile, quelqu'un qui a moins sécurisé ses affaires. Bref, ça, c'est concernant plus l'aspect de la fraude puis de la cybersécurité, toutes des affaires qui peuvent quand même toucher votre argent, que ce soit avec votre compte PayPal, que ce soit avec vos cartes de crédit qui sont pré-enregistrées un peu partout, des trucs qui sont liés directement, que tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer puis que le paiement va passer. Tous ces éléments-là vous mettent un peu à risque si jamais il y a une fuite de données quelconque ou que vous vous faites hacker, que ce soit votre courriel ou n'importe quel site web ou application que quelqu'un réussirait à rentrer dedans. Sinon, la deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que pour la plupart des gens, l'argent que vous déposez à l'intérieur d'une banque canadienne, c'est assuré par la SADC. Je vous rappelle que la SADC, c'est la Société d'assurance dépôt du Canada, et que cette société-là, elle assure, donc elle garantit les dépôts faits à l'intérieur de vos comptes de banque jusqu'à concurrence de 100 000 par catégorie de compte. Après ça, au-delà de 100 000 dans ton compte chèque ou au-delà de 100 000 investis dans des CPG ou au-delà de 100 000 en encaisse dans ton CELI ou dans ton REER, au-delà de ça, les sommes d'argent qui excèdent 100 000 cet argent-là que tu vas déposer dans l'un ou l'autre de ces comptes-là, il ne sera pas garanti par la SADC. Autrement dit, si jamais l'institution financière dans laquelle tu as déposé ton argent, si l'institution fait faillite, comme avec la Silicon Valley Bank aux États-Unis, dans un tel cas, la SADC elle permettrait de récupérer jusqu'à 100 000 $ par type de compte. Et là, on s'entend, là, les 6 grandes banques canadiennes, ils sont pas mal moins à risque que les banques régionales qui sont devenues insolvables aux États-Unis en 2023. Tu sais, c'est très improbable que ça arrive, mais c'est pas impossible. Mais tu sais, pour le moment, il n'y a rien qui indique un tel scénario. Là. Les banques ont mis des centaines de millions de dollars de côté en cas de mauvaise créance. Donc, à moins d'une catastrophe, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. C'est plus d'être conscient que quand ton épargne dépasse 100 000 $ par catégorie de compte, la portion excédentaire, elle n'est plus assurée par la Société d'assurance dépôt du Canada. Et c'est le même principe pour les comptes de banque de ta business. Si tu laisses 250 000 dans ton compte chèque, dans ton compte courant, pour payer tes coûts fixes, puis payer ton payroll qui passe aux 2 semaines, ben le montant excédentaire à 100 000, ben il est non assuré. Fait que tu as 250 000 dans ton compte chèque, la banque fait faillite, ben il y a seulement la portion de 100 000 qui est assurée. Le 150 000, théoriquement, tu pourrais l'avoir perdu. On s'entend, dans ce type de scénario-là, il y a de bonnes chances qu'il y ait une institution financière autre qui rachète l'institution financière qui a fait faillite et qui vienne un peu combler les pertes des clients de l'autre banque. Mais reste que c'est un scénario que tu veux éviter et qu'il faut savoir justement la réalité de la couverture d'assurance de la SADC. Et tout ça, tu penses à ça juste une fois que tu es rendu à un certain niveau financier. Je veux dire, quand tu as 50 000 de collé dans tes comptes de banque, l'idée que la banque fait faillite puis que tu n'es pas garanti, ça te passe même pas par la tête. Mais une fois que tu es rendu là, une fois que tu es dans les gros chiffres, comprendre la solidité financière de la banque dans laquelle tu déposes tout ton fric, tout d'un coup, ça a comme plus d'importance. C'est là justement que tu commences à te poser des questions, à savoir est-ce que ton argent est vraiment en sécurité, c'est tout placé à l'intérieur de la même banque. Au fait, l'une des avenues pour pallier à ça, c'est pas super compliqué, c'est d'aller splitter ton argent dans différentes institutions financières parce que la protection de la SADC, la protection de 100 000 par catégorie de compte, elle fonctionne individuellement pour chacune des banques. Autrement dit, c'est un compte chèque dans 3 banques différentes. Chacun de tes comptes chèques est assuré pour 100 000 par la SADC. Donc, avec les 3 comptes de banque dans 3 banques différentes, tu as une couverture totale de 300 000 $. Encore là, partez pas en peur avec ça, puis allez pas vous ouvrir des comptes de banque partout. Faut comprendre qu'avoir des comptes bancaires dans différentes institutions financières, ça vient complexifier la gestion de vos finances personnelles, ça vient toute l'histoire de paiement de factures, les dépôts directs, tout ça. Donc, ça vaut pas la peine de tout gérer ça si vous bustez pas les limites de l'assurance dépôt de la SADC. Et comme je vous dis, c'est quand même 100 000 par type de compte. Donc, 100 000 votre compte chèque, 100 000 pour des CPG, 100 000 pour votre CELI, 100 000 pour votre REER, etc. Donc, c'est pas si vous calculez tout ce que vous avez un peu partout, ça se peut que ça bosse 100 000, mais est-ce que ça bosse 100 000 par catégorie de compte? C'est une autre question. Et l'autre volet, c'est que la SADC, elle couvre les dépôts. Elle couvre pas tout ce qui est les FNB, les fonds mutuels, les fonds distincts, les actions, tout ça. Ça n'est pas couvert par la SADC. On parle vraiment de liquidité ou de CPG. C'est vraiment dans... Faut que ça fasse partie de la liste de ce que la SADC va couvrir. Et bien franchement, je vous parle de tout ça, mais c'est plus avec l'idée de vous conscientiser. Parce que, tu sais, en bas d'un demi-million en liquidité, que ce soit personnel ou dans votre business, cassez-vous même pas la tête avec ça. C'est un détail. Allez-vous pas, commencez pas à stresser avec votre assurance avec la SADC. Sauf qu'il faut savoir que ça existe et qu'un moment donné, quand tu passes différents niveaux financiers, ton stress ou tes questionnements passent à un autre niveau et ça nécessite des fois des différentes stratégies, que ce soit justement via l'incorporation, les fiducies, des stratégies de justement spreader ses liquidités, son cash dans différentes institutions financières. Et je voulais vous parler de ça parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment passé d'un univers à l'autre, de manquer d'argent, d'être tout le temps à court de fric dans le début vingtaine, à passer avec une certaine encaisse, des liquidités, une business qui fonctionne bien, un portefeuille qui a pris de la valeur, évidemment, en 10 ans de placement. Donc, c'était un peu ça le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère aussi que ça vous a un peu réveillé par rapport au risque du côté de la cybersécurité. J'espère que vous allez faire le tour de vos mots de passe, rajouter de la protection sur vos connexions à vos comptes de banque et tous les autres types d'applications que vous utilisez. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review, un commentaire sur Apple Podcasts, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.